Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 42e épisode de Torréfaction, votre rendez-vous normalement hebdomadaire, mais on n'était pas là la semaine dernière, c'est de ma faute. Hein.
Bah oui, tu écoutes la maladie,
c'est le cas.
Ce sont des choses qui arrivent. Bonjour Pascal.
J'étais malade, j'étais sous la couette et franchement j'étais pas du tout en état de faire un podcast, donc on a décidé de skipper.
Moi j'ai fait une révolution, j'ai fait un podcast par écrit, ça s'appelle les articles.
Très bien, voilà.
ça s'appelle une news.
Retour aux fondamentaux.
Bah voilà.
Et donc on est de retour pour ce 42e épisode où on fait un peu le tour de l'actu qui nous a semblé intéressante et qu'on voulait partager avec vous, et on va commencer avec le gaming. On reparle de ton chouchou du moment, Monster Hunter World.
Ouais, je suis en phase de rémission, là je commence à essayer de décrocher, ça se passe pas plutôt bien, parce qu'en fait j'avais un peu fait le tour du contenu, mais Capcom c'est des petits malins, ils savent que la drogue il faut continuer de la distribuer.
Oui, oui.
Le jeu ayant cartonné, je te confirme qu'ils ont un peu balancé tout ce qu'ils peuvent en termes d'équipe pour continuer à faire grossir le jeu. Donc on a une grosse première update qui va arriver le 22 mars, date à laquelle je risque de redisparaître de mes autres jeux, avec entre autres l'arrivée d'un nouveau monstre qui s'appelle le Devil Joe. Alors Devil Joe, ça a l'air débile comme ça, hein. C'est Joe le Devil. Non, c'est un truc japonais, c'est J-H-O à la fin les gars, hein, d'accord. Qui va nous permettre de construire de nouvelles armes, de nouvelles armures avec sa carcasse, puisque c'est un peu le destin de toutes les bestioles dans Monster Hunter, je sais, c'est triste. La grosse nouvelle pour les gens qui connaissent le jeu, c'est qu'effectivement, c'est un habitué de la série, on va dire, que nous, comme on est plein de nouveaux sur Monster Hunter, on connaît pas les us et coutumes de cette bestiole. Mais ça a l'air d'être un gars un peu relou, ça va nous occuper un petit moment, moi j'ai hâte. Et puis au passage, il y a plein de nouveautés qui vont débarquer avec un équilibrage des armes. Un truc qui va faire très plaisir, c'est l'optimisation des temps de chargement. Ah. C'est le truc le plus relou du jeu, parce que je crois que j'ai 140 heures de jeu, dont à peu près 40 à attendre que le truc soit loadé, tu vois. En fait, tu loads entre le hub où tu vas chercher les missions, etc. Tu loads quand tu rentres dans ta chambre, en fait, là où tu peux faire certaines actions dans le jeu. T'as un hub multijoueur, c'est encore un loading. Les missions, tu attends aussi. Donc, si tu veux, globalement, les tests n'ont pas trop appuyé sur ce truc-là, mais c'est le plus chiant dans le jeu. En fait, tout le reste est plutôt bien pensé, mais ça, techniquement, c'était pas magique.
Vivement le SSD sur notre PC, donc.
Sur la PS4, surtout, ouais, ça serait aussi, bien aussi. Ouais. Je pense qu'il y a une petite modif. Mais clairement, en plus, le network, la façon dont il gère le code réseau, il y a des petits couacs. Donc, il y a pas mal d'ajouts qui vont améliorer ce qu'on appelle la qualité de vie du joueur et pas forcément transformer le jeu en lui-même. Mm-hmm. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et a priori, il va y avoir des grosses updates comme ça très, très régulièrement.
Donc, tu vas disparaître régulièrement aussi.
Écoute, c'est une possibilité. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un excellent boulot. Et donc, si vous êtes pas complètement hermétique aux trucs répétitifs, parce que il faut pas se mentir,
grind.
On va farmer les mêmes monstres en boucle pour faire dropper 2-3 conneries, mais le jeu est suffisamment rigolo, le changer d'arme te change complètement le feeling du jeu par rapport au combat. Donc ça fonctionne, et si vous êtes un peu accro aux MMO et que vous avez été farmé en boucle les mêmes instances pendant toute votre vie avant, on retombe en fait dans exactement les mêmes mécaniques, et c'est vrai que comme dans certains personnages de Jessica Jones dont on parlera tout à l'heure, l'addiction revient rapidement.
Monster Hunter World, donc grosse update le 22 mars. J'ai vu passer ça tout à l'heure, Twitch commence à offrir des jeux Twitch Prime.
Alors offrir, on joue sur les mots avec notre ami Amazon, puisque donc Twitch Prime, vous connaissez tous, c'est l'abonnement Prime qui vient avec votre abonnement Amazon Prime, en fait. On peut l'avoir aussi en séparé, mais le plus malin, c'est quand on a un abonnement Amazon Prime, on est aussi directement Twitch Prime. C'est pour ça que vous avez une petite icône différente quand vous parlez sur un chat, sur Twitch, sur un stream avec vos streamers préférés. Et du coup, il y a un petit débat, un petit problème pour Monsieur Amazon qui essaye de nous refourguer leur soft Twitch, qui est en fait un mélange de Discord, de player vidéo, qui est l'évolution du gestionnaire de mode de Curse aussi, donc pour avoir ses mods, ses add-ons à jour sur World of Warcraft et compagnie. Et donc, cette espèce de gloobie-boulga de soft qui est pas très digeste, faut quand même bien le dire, sert aussi maintenant de plateforme de distribution de jeux.
D'accord.
Ils avaient un loader, en fait, ils avaient un truc séparé qu'ils ont intégré là-dedans quand ils ont racheté Curse. Ça a pris quelques temps, mais après, ça s'est retrouvé à l'intérieur. Donc, il y a une espèce de Steam-like, qui est pas ultra bien fait, je vais pas vous mentir, qui est un peu lourdingue, se met à jour un peu. Enfin, c'est pas magique. Hein. Bon, alors après, c'est beaucoup mieux que ça l'a été. Mais c'est pas la meilleure solution pour regarder Twitch, c'est pas la meilleure solution pour gérer ses jeux. C'est la meilleure solution peut-être pour gérer certains mods, même s'ils ont pas tout le catalogue. Il y a encore des sites qui font de la résistance et qui sont des développeurs de mods qui vont pas tout mettre chez notre ami Curse, par exemple, qui s'appelle plus Curse, puisque ça a été racheté, blablabla, c'est compliqué. Mais du coup, là, comme il y a une guerre des plateformes qui se profile entre les Steam, les GOG, enfin GOG, je sais jamais comment on dit, en fait.
Je crois qu'il faut dire, GOG, ou, ouais, c'est ça, GOG, en fait. C'est plus Good Old Games, en fait, c'est ça.
Voilà, c'est GOG maintenant, la marque. Les gars de chez Electronic Arts qui vont se mettre à distribuer d'ailleurs d'autres plateformes, Ubi qui fait ses alliances dans son coin aussi, etc. Donc on sent une petite tension sur le secteur et eux veulent jouer à ça aussi puisque Amazon ils sont un peu gros quand même, hein. Et ils vont donc offrir entre guillemets, donc, mais offrir à condition de payer votre abonnement, donc c'est là où le mot gratuit est pas vraiment gratuit, des jeux sur directement sur ce logiciel là. Donc ça va être exactement comme ce qu'on avait déjà avec la plateforme Twitch, c'est-à-dire que quand tu te connectes sur ta page Twitch et que tu as un compte, tu peux déloquer des bonus dans certains jeux. Donc là c'est l'étape d'après. Si tu vas dans le logiciel, tu vas avoir accès dans la partie gestion de jeu à des trucs gratos.
D'accord.
On en avait parlé, ils ont déjà commencé à offrir un truc avec un des jeux des remakes HD de Devil May Cry. Et là, on va avoir plein de jeux indépendants, parce qu'en fait, c'est des jeux qui ont été plus ou moins financés avec l'argent d'Amazon à la base. Mm-hmm. Ils font partie d'un programme spécifique. Et la première fournée, ça va concerner 5 jeux. Il y aura Superhot, Oxenfree, Shadow Tactics, qui est un excellent jeu d'ailleurs, Tale of Candlekeep et Mr. Shifty. Donc c'est pas tous des gros titres, mais cette première fournée va un peu amorcer la pompe. Dans le tas, rien que pour Shadow Tactics, je pense que
ouais, ça vaut le coup.
Ça vaut le coup, ouais. Et Superhot et Oxenfree ont aussi eu des bonnes reviews à l'époque. Et en avril, alors là, ils sortent un peu l'artillerie lourde. On aura Tales from the Borderlands, SteamWorld Dig 2, Kingsway, l'excellent Tokyo 42 et Dub Wars. Donc ça va être un mois intéressant. Tokyo 42, c'est pas un jeu extraordinaire, mais visuellement il est vraiment super réussi, c'est un truc à connaître. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour deux premières fournées. En revanche, ils sont malins, ils sont en train de dire, ils font pas comme le PSN, ils promettent pas un nombre de jeux fixe. Ils disent bon voilà, on commence avec 5, mais ça sera pas forcément tous les mois, blablabla. Ils savent très bien qu'ils auront pas forcément autant de jeux tous les mois à offrir et que ça va être compliqué pour tenir ce rythme, mais c'est plutôt malin. Donc voilà,
c'est un peu comme le Humble Monthly en fait.
Ouais, ça va être très proche, c'est-à-dire que tu payes ton abonnement pour avoir des services qui sont finalement très larges, puisque avec Twitch Prime, t'as accès à plein de trucs. T'as pas de pub sur Twitch, tu as effectivement ton abonnement Prime, donc avec les livraisons Amazon le jour d'après, pas payante, etc. Donc il y a vraiment énormément de services à l'intérieur de ce truc-là. Tu as l'accès à Prime Video, qui rien que pour ça vaut quand même le coup.
Ouais, c'est clair.
Donc c'est 50 balles par an, et du coup tu vas te retrouver aussi avec ces jeux gratuits dans ce soft-là. Donc ça oblige à utiliser leur soft pourri, hein, on va pas... J'insiste sur ce point, c'est pas non plus gratos dans le sens où vous êtes là pour gonfler le nombre d'utilisateurs du truc. Mais bon, bah voilà, hein, écoute, on a survécu à pire, hein, rappelez-vous, hein. Uplay, les premiers temps, c'était quand même difficile.
Genre de même Steam au début. Hein.
Oui, bien sûr, et Steam, ça l'est encore. D'ailleurs, on attend
la nouvelle version, là. Je tapote sur ma montre.
L'arlésienne, quoi. Donc, c'est très intéressant, on va suivre ça de près, et je pense que rien que pour ces deux premières fournées, ça vaut le coup de prendre votre abonnement si vous aimez bien les jeux indés et que vous n'avez pas testé tous ces trucs-là.
Allez, on va terminer notre section gaming en reparlant de notre incontournable PUBG.
Mais oui, qui a mal en ce moment, puisque...
Ouais, les gens se barrent, j'ai cru comprendre.
Alors, ils se barrent tranquillou, hein. C'est un peu comme les news de ma mort ont été largement exagérées. c'est un peu, ça fait du clic, tu vois, de dire que, oh là là, mon avis, oh là, PUBG va crever. Donc, c'est le troisième jeu le plus vendu de l'histoire de Steam, déjà. Donc, si tu vois, avant qu'il meure, même si les gens vont jouer à autre chose pendant ce temps-là, bah, c'est pas très grave pour eux. Ils ont pas la problématique cinématique d'un Fortnite où si les gens se barrent, ça veut dire qu'ils ont pu les pubs des nouveaux trucs à acheter dans le jeu tout de suite, tu vois. Mmh. Les mecs, ils ont payé leurs 30 balles, ils ont le droit de jouer quand ils veulent finalement.
Ça
laisse un confort aux gars de chez alors il faut dire PUBG, tu vois. Il faut qu'on arrête de dire PUBG et tout ça, il paraît. J'ai eu des remarques.
Ah bon?
Ah oui, mais je m'en soucie vachement comme tu le sais. Mais voilà, PUBG, on va faire comme les Américains. Et du coup, ils ont le temps de préparer leurs évolutions, etc. Donc, ils ont sorti une énorme patch note dont j'ai parlé la semaine dernière dans le texte, dans notre podcast par écrit, où ils ont vraiment déballé toute la roadmap pour 2018, ou en tout cas les principaux axes, parce qu'ils n'ont pas tout mis sur le papier non plus. Mm-hmm. Mais il y a des trucs qui sont un peu bizarres, qui sont un peu des réactions, on va dire, en MeToo, en disant, ouais, bon, alors si Fortnite l'a fait, je vais le rajouter aussi.
Ouais.
Au premier rang, les emotes. Donc, il y a cette énorme page de 9 gigas
super,
à
hein.
des emotes pour jouer, si tu veux, dans un titre où tu t'es planqué dans les herbes pendant quasiment tout le truc. Ça n'a aucun intérêt. Ils sont en train d'essayer de trouver un petit peu l'équilibre entre ce que les gens leur reprochent, c'est-à-dire des parties qui sont parfois trop lentes, ce qui fait chier les streamers, en fait. Il est là, le nerf de la guerre. Donc, il va y avoir une nouvelle map qui va sortir, qui est deux fois plus petite que l'actuelle, enfin, les actuelles, qui, au lieu de faire 8 km par 8 km de côté, va faire 4 sur 4.
Mm-hmm.
Avec toujours 100 personnes, donc du coup, ça va provoquer des combats beaucoup plus vite, comme Fortnite. Voilà, bon, ça me gêne un peu qu'ils aillent copier ce truc-là, mais ça les empêche pas de développer à côté et d'améliorer ce qui existe déjà, de rajouter des armes, de continuer d'améliorer les sons, les moteurs d'animation. Il va y avoir des animations quand on rentre et quand on sort d'un véhicule. Ils sont en train de vraiment de continuer à peaufiner leur jeu en continuant dans une optique plus Arma-like, donc les fans de simulateurs militaires vont rester de toute façon là-dessus, et les mecs qui sont plus dans l'action tout de suite, maintenant, les joueurs de Counter-Strike, etc., vont plus rester côté Fortnite, c'est normal, j'ai envie de te dire, et les deux jeux peuvent totalement cohabiter. Pour moi, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Après, j'ai mes préférences à moi, mais en termes de produits, il faut pas se leurrer. Epic a fait un super boulot sur Fortnite. Je regardais Ninja jouer hier soir avec notre ami, merde, j'ai oublié son nom, Drake. Drake.
C'était
sur Fortnite.
Il y a tellement de stars sur les streams en ce moment.
Ah oui, c'est n'importe quoi. Donc c'était une opération de com complètement orchestrée, parce qu'il y avait des mecs de Twitch chez les gars, le mec de la NFL, il y avait un mec de Twitch en train de lui régler son setup, etc. Tu vois, donc, c'était complètement prévu. Mais donc, du coup, j'ai vu Ninja se faire des teams de 4 parce qu'il jouait avec des polios sur PS4 avec des paddles qui sont, tu vois, Drake, on peut pas dire que ça soit un pro-gamer, hein, faut pas déconner non plus. Et c'était très intéressant de voir à quel point le mec est capable de jouer. Il joue pas au même jeu que moi. Quand je joue à Fortnite, je joue pas comme ça, tu vois. Quand 90% des gens jouent à Fortnite, ils jouent pas comme lui. C'est hyper impressionnant. Mais comme quand je regarde Shroud jouer à PUBG ou à Grimms ou Kung Fan, c'est pas du tout les mêmes jeux, et les mecs qui se baladent dans la pampa dans PUBG, je ne fais jamais ça, les gars. Uniquement sous la contrainte de la zone. Donc c'est intéressant de voir un peu comment les deux jeux évoluent et comment les développeurs sont un petit peu pris entre les desiderata du public normal, on va dire, et des streamers, de la scène e-sport, etc.
Ouais.
Donc on verra comment ça évolue. En tout cas, ce patch de 9 gigas, il fait plaisir parce que le jeu est beaucoup plus fluide que sur les derniers patchs. Ils ont amélioré plein de trucs. L'anti-cheat semble faire son boulot, même s'ils ont été obligés de faire un rollback sur une des parties de cet anti-cheat, qui est à peu près un peu trop violent, on va dire, pour le
trop gourmand, ouais.
Trop gourmand, et ça c'est pas du côté du moteur 3D que ça coince, c'est du côté de la couche réseau. Donc ça faisait trop d'appels, ça vérifiait trop de trucs sur votre machine et ça envoyait trop d'informations, et c'était un problème. Donc bon, voilà, ils sont sur le coup et ça continue d'évoluer. Je vous renvoie sur la news de la semaine dernière où il y avait le lien avec toutes les modifications, mais le patch de 9 gigas, bon bah il se pose là, et moi je continue d'y jouer, je m'éclate et je ne compte pas arrêter, à part quand Monster Hunter fait des autres.
On va passer du côté des apps et puis je vais te laisser souffler un peu, je vais enchaîner avec une petite app en vitesse qui s'appelle Snapshot 2. Alors c'est une idée, comme je disais sur la news que j'ai fait sur Geekzone, une idée toute bête en fait. On bosse souvent, enfin en tout cas moi et puis la scène contemporaine bosse souvent maintenant avec des instruments virtuels, donc c'est des plugins, donc ils ont leurs presets qui sont enregistrés dans les sessions de votre logiciel, et donc on peut facilement se les échanger. En revanche, on oublie un peu que y a encore des mecs qui travaillent à l'ancienne avec du vrai matos, avec des vrais compresseurs, avec des vrais boutons à tourner, et que pour ces gens-là, c'est pas facile de transmettre les informations ou bien même simplement de les sauvegarder pour leur utilisation future. Si tu bosses sur un morceau puis que tu bosses sur un autre, t'auras pas forcément les mêmes réglages. Il y a une boîte qui s'appelle Non-Little Applications, des applications non mortelles donc, qui a décidé de sortir, ouais, qui a décidé de sortir un petit plugin gratuit qui s'appelle donc Snapshot, qui est dans sa version 2 et qui vous permet tout simplement de prendre une photo de vos réglages physiques et de l'attacher directement dans votre fichier de travail, votre fichier son sur lequel vous êtes en train de bosser, ce qui va permettre derrière, quand vous allez réouvrir le fichier, d'avoir accès directement à toutes les captures de vos différents réglages, de pouvoir remettre vos potards là où il faut, plutôt que de prendre des notes comme on le fait souvent dans un petit carnet, puis des notes qu'on va perdre. Je trouve que l'idée est plutôt sympa, c'est un petit soft tout con, voilà, c'est le genre de soft qu'on aime, quoi. C'est des trucs qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que personne n'a jamais fait ça avant?
J'étais en train de me dire, mais attends, depuis Jean-Michel Jarre, les mecs n'avaient jamais créé ça, quoi. Tu vois,
voilà, il n'y a pas un soft, c'est-à-dire que les mecs faisaient peut-être des photos qui s'envoyaient par mail, j'en sais rien, mais en tout cas, un soft qui l'intègre directement dans les fichiers son. Donc ça marche avec tous les dos du marché, c'est un VST, en fait, qui s'intègre dans votre setup et puis qui va prendre les captures d'écran et, ou les captures d'écran ou les photos. En fait, on peut faire les deux, on peut aussi s'en servir pour des plugins virtuels. Donc voilà, Snapshot 2, je vous renverrai vers la news où je vous explique tout ça, donc que j'ai écrite hier. Et puis on va passer à une autre app, on va aller du côté de chez nos amis d'iOS avec Paste 2.
Ouais, alors ça, c'est, on va faire très très vite. C'est Paste, c'est un gestionnaire de clipboard, en fait, de couper-coller, tu vois. Un peu malin, qui débarque sur iOS, qui existe déjà sur Mac depuis un moment. C'est un des plus jolis sur macOS, avec un bandeau qui vient se mettre en bas de ton écran, qui moi ne m'arrange pas du tout puisque c'est là où j'ai mes icônes. Enfin, c'est là où on a le dock normalement sur macOS. Mmh. Donc on peut le mettre ailleurs, on peut le configurer, et c'est un multi-clipboard. Donc tu vas copier une image, un bout de texte, une URL, etc. Et ça va te garder le rendu visuel de ce que tu as copié, et tu peux récupérer le contenu hyper facilement. C'est vraiment pratique quand tu bosses comme nous sur plein de documents. Moi, je suis en train de faire une news sur un truc important, bim, bah, t'es en train de copier plein de liens, t'es pas obligé de les remettre directement dans le document, tu peux copier tes liens au fur et à mesure de ta navigation, et puis après aller piocher dedans quand tu en as besoin, quand t'écris ton texte, que tu les rajoutes dedans, etc. Pour les gens qui font des documents un peu complexes, c'est hyper pratique. Il lui manquait un gros truc, c'est une version iOS avec une synchronisation entre les deux plateformes, parce que moi, ça m'arrive souvent d'être en train de mater des trucs, en train de lire dans mon canapé, et j'ai juste à les copier, et ça va être directement synchronisé avec mon Mac quand je vais me mettre à bosser sur le document réellement, en fait. Je fais ça avec un soft qui s'appelle Copied, dont j'ai déjà parlé, qui pour moi est le meilleur du secteur, puisqu'il permet de directement faire des manipulations sur le truc que tu as copié. Donc, je sais pas, moi, tu vois, tu viens de copier un truc, tu as besoin de garder juste le texte sans la mise en forme, bah, ça va te permettre de le faire. Tu veux copier plusieurs images, il est capable de le gérer, etc. Paste 2, en fait, pouvait pas faire tout ça. Il se met à peu près au niveau. Après, il y a encore des bugs au niveau de la synchronisation. C'est encore un peu jeune par rapport à Copied. Donc, je vous conseille d'aller regarder les deux. Je vous mettrai les liens dans le billet qui est lié à ce podcast. Je suis plutôt partisan de Copied encore. Paste 2, c'est une alternative intéressante. Il y a Pastebot aussi qui existe, mais uniquement sur macOS. Donc, le marché évolue pas mal. Sachant que Apple, de son côté, propose un gestionnaire de clipboard qui est global déjà, mais qui est beaucoup moins puissant. Donc, bon, voilà, en fonction de votre usage, vous n'avez pas forcément besoin. Ça peut aussi déjà exister de s'envoyer des trucs sur son iPhone depuis son Mac, inversement, sans acheter quoi que ce soit. Mais quand vous bossez un peu sérieusement, pour moi, Copied reste devant Paste 2. Mais je voulais dire que ça débarquait sur iOS, comme ça vous testez et vous voyez bien ce qui vous intéresse. Ça.
Et on finit les apps avec Overcast qui passe en version 4.1.
Oui, peut-être que vous nous écoutez avec, puisque c'est une application de podcast uniquement disponible sur iOS, avec une version web qui rend pas mal service. Enfin, moi, je m'en sers quand même de temps en temps. Et là, ils ont rajouté des petites bricoles qui sont plutôt pas mal, avec l'auto-delete des épisodes qu'on a déjà écoutés au bout de 24 heures.
Bien.
Ce qui est vraiment pas con, puisque ça évite d'avoir à faire le ménage soi-même, et ça permet de pas avoir sa mémoire de son téléphone prise par des trucs qui ne serviront plus. Un smart resume qui est pas mal. Alors ça, c'est tout con comme idée, c'est pareil. Hein. C'est un peu comme Snapshot 2. C'est au lieu de reprendre la lecture directement là où tu t'étais arrêté, ça remonte de quelques secondes pour te remettre dans le contexte de ce que t'étais en train d'écouter.
Ce qui est pas con.
Et c'est vraiment super efficace, en fait. Tu te dis, ah oui, putain, pourquoi on fait pas tout ça? On fait pas ça tout le temps. Ils ont évidemment optimisé plein de trucs. La recherche est vachement mieux foutue. La façon dont il y a encore plus de façons de rajouter des podcasts à l'intérieur. Pour moi, c'est le meilleur client iOS avec une version web qui est bien pratique. Moi, je l'utilise, par exemple, t'es en train de mater, d'écouter un truc dans la bagnole. tu reviens, boum, j'ai pas envie de réécouter je veux écouter sur mon ordinateur directement. Bah, quand j'ouvre ce podcast sur la version web, je suis directement au point où j'étais arrêté sur le soft, dans mon téléphone. Donc, c'est vraiment très pratique. Il y a plein d'options pour écouter les podcasts. Donc, pitié, ne fais pas comme certaines personnes qui sont pourtant sur Geekzone.
qui les écoutent directement sur la page web.
Sur le web. On est très content de notre lecteur. Il rend de fiers services. Il y a des options un peu plus intéressantes.
Surtout quand t'es abonné, quoi. Enfin, c'est des
Exactement.
On passe à la culture. Tu voulais qu'on parle un peu de Jessica Jones saison 2.
Bah, rapidement, je me suis dit, c'est du Marvel. On est un peu obligé d'y aller, quoi. Donc, Netflix nous a balancé les 13 épisodes de cette saison 2 de Jessica Jones, dont je rappelle que j'ai à peu près détesté la saison 1. Ouais. Enfin, la saison 1, pardon. Le personnage, j'adore l'actrice, hein, mais le personnage m'énervait, et c'est surtout le big bad de la saison 1. Je vais pas spoiler, mais vraiment, j'étais, ceux qui l'ont pas encore vu, mais j'étais pas du tout, comment dirais-je, client.
Convaincu par ses pouvoirs.
Voilà, en fait, j'adore l'acteur, j'adore le perso lui-même, mais la version de Netflix m'a énervé. Parce que le mec est quand même très puissant et comme c'est compliqué à gérer au niveau du scénario, il y avait plein de ce qu'on appelle les plot holes, des trucs où tu te dis mais pourquoi ils ont pas fait ça, pourquoi il a pas fait ça, pourquoi le gentil a pas fait ça, gna. Et c'était ultra chiant. Moi ça m'a énervé pendant toute la saison. C'était pourtant très bien réalisé. J'adore le générique, j'adore l'ambiance, c'est super bien filmé. Mais bah vraiment il y a un truc qui passait pas. Cette saison 2, j'en suis à l'épisode 10, il y en a 13. Je n'ai pas vu l'épisode 10, donc il m'en reste 4. Mais ils ont réglé le problème, puisque, sans rien révéler, ils ont trouvé un moyen d'avoir des méchants qui soient pas trop forts. Mais on est plus dans une... je trouve qu'ils ont plus réussi l'ambiance roman noir qu'ils essayaient de mettre en place dans la première, avec le personnage qui se parle à lui-même. Il y a un côté vieille série des années 90, enfin les trucs de détective privé, en fait, qu'on avait dans les années 80-90, qui est assez rigolote. Je trouve ça mieux géré. Je trouve le rythme, bon alors ça va toujours très lentement, un peu. Enfin je veux dire, moi j'aime bien quand c'est un peu plus punchy.
Bah c'est toujours le problème d'une série Netflix, 13 épisodes c'est manifestement trop quoi.
Bah c'est beaucoup trop long pour, ils sont obligés de délayer la crème très 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 longtemps avec des arcs qui sont pas forcément passionnants. Pour l'instant je suis quand même plus client que sur la saison 1, si vous êtes abonné bah ça se regarde quand même avec plaisir. Mais on va attendre de voir ce que ça donne sur le dénouement. En tout cas, comme j'ai envie de dire, si vous payez déjà votre abonnement, ce serait dommage de payer à côté si vous aimez bien l'univers Marvel, mais vous attendez pas à des combats de super-héros de ouf avec des trucs qui pètent dans tous les sens. C'est définitivement pas le credo des séries télé de Marvel.
Bah surtout, là maintenant, il y a plus de sous et ça commence à se voir. Moi, je suis qu'à l'épisode 3. Enfin, j'ai maté les 3 premiers, donc je me réserve encore mon jugement définitif quand j'aurai tout maté. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une baisse de budget, quoi. On sent qu'à la base, c'était pas prévu qu'il y ait une saison 2. Et que vu que ça a pas trop mal marché, ils en font quand même une, mais ils sont en train de vraiment racler les fonds de tiroir, là ça se sent. Donc on verra, on en reparlera soit dans ce podcast, soit dans les clairvoyants à l'occasion de cette saison 2 de Jessica Jones, et puis on va enchaîner avec Marvel qui se lance dans le podcast. Marvel avait déjà fait des expérimentations avec des formats audio, notamment avec une série radio sur les 4 Fantastiques dans les années 70, mais là c'est la première fois qu'ils se lancent dans le podcast dit narratif, hein. Le podcast narratif, on en a parlé avec Charlotte Pudlowski dans le dernier Dans le Canap. C'est un truc qui marche plutôt pas mal en ce moment. Ça a commencé avec Serial aux États-Unis et puis voilà, tout le monde fait son petit podcast narratif où en gros on raconte une histoire. Ici c'est une histoire qui tourne autour de Wolverine, ça s'appelle Wolverine The Long Night. Alors plutôt que d'essayer de faire une adaptation de comics en podcast, ils ont plutôt joué la carte pour le coup, justement de singer les autres podcasts narratifs qui existent déjà et d'essayer d'intégrer un personnage comme Wolverine dans ce cadre-là. Ça marche plutôt pas mal. Ça commence par une série de meurtres qui pointent vers Wolverine parce que les mecs se sont fait découper avec ce qui ressemble à des griffes, hein. Et donc le perso finalement arrive assez tard dans l'épisode, c'est narré comme un roman policier, c'est plutôt bien écrit. Moi j'ai trouvé ça assez agréable à écouter. Il y a que le premier épisode qui est disponible pour le moment. Faudra voir ce que ça donne sur la longueur. Il y en a 10 prévus. Pour l'écouter, il faut s'abonner à Stitcher. Alors on peut bénéficier d'un mois gratuit si on s'abonne, donc les limites, abonnez-vous, prenez le premier mois gratuit et barrez-vous avant si finalement vous décidez de ne pas écouter ce podcast Marvel. Et sinon je crois que c'est $4,99 par mois, donc voilà, ça vaut le coup si vous voulez. Donc c'est 10 épisodes de prévu, chacun de 30 minutes. Et puis je voulais terminer en citant le scénariste de cette série qui s'appelle Ben Percy, qui est un monsieur que je connais pas du tout, mais qui a déclaré dans une interview à Mashable qu'en fait Wolverine The Long Night était prévu comme le début d'un, tiens-toi bien, univers interconnecté de plusieurs podcasts qui va s'appeler le Marvel Podcast Universe. Voilà, donc tout le monde veut faire comme Marvel Studios, tout le monde veut faire des univers interconnectés.
Fait, ça me fait marrer parce que c'est le principe de l'informatique. En fait, les gens veulent faire un écosystème.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, comme ça, tu vas acheter plein de trucs.
Tu vas écouter tous les autres podcasts.
Ouais. On va essayer de te faire du marketing interconnecté surtout, mm-hmm. et te faire dépenser plus d'argent. Moi, ce qui me fait marrer dans ce concept, c'est qu'en fait, les mecs, tu viens de réinventer les épisodes d'avant de la télé qu'il y avait à la radio.
Ouais, c'est ça. Les céréales.
Il
n'y
a rien de nouveau, quoi. Enfin, ouais. C'était ce que les gens écoutaient avant qu'on invente la télé. Et là, on revient sur ce truc-là. Alors, moi, perso, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas du tout ma cam, mais je trouve ça marrant que les mecs te vendent une révolution qui a finalement 70 ans, quoi.
C'est du drama radio, en fait, qu'on faisait déjà il y a 20, 30, 40 ans, quoi.
C'était dans Agent Carter où tu avais déjà une émission de radio, justement, qui se passait dans les années 40 avec Peggy qui suivait ça de près. Je trouve que c'était quand même assez rigolo, puisque du coup, elle aurait pu écouter Wolverine.
Bon, Wolverine, voilà. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter une oreille. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Maintenant, effectivement, il faut aimer le genre. Il faut avoir envie d'écouter des podcasts narratifs. C'est pas la cam de tout le monde, mais si c'est la vôtre, je vous linkerai ça sur le billet qui accompagne ce podcast. On va parler en vitesse parce que je voulais vous le recommander du film Annihilation sur Netflix en ce moment. Je sais pas si t'as suivi ou pas du tout.
Alors, j'ai vu que c'était très clivant. Les avis sont extrêmement tranchés sur les différents réseaux sociaux, mais il est sur ma watchlist. Hein.
Voilà. Alors, en gros, l'histoire, c'est que le film donc, a été écrit et réalisé par Alex Garland, qui avait fait un film que toi t'as pas aimé, mais moi que j'ai bien aimé, malgré ses plot holes, qui est Ex Machina. C'est lui aussi qui avait écrit The Beach. Ouais, on peut en reparler si tu veux, mais.
Non, nous avons déjà eu cette conversation. J'adore la réalisation. En fait, c'est la frustration. J'aurais adoré ce film.
C'est ça.
Et ça n'a pas été le cas, et j'étais extrêmement peiné, on va dire.
Voilà, donc c'est son nouveau bébé, qui s'appelle donc Annihilation. Alors, c'est difficile de parler de l'histoire sans spoiler. C'est un film d'anticipation qui tourne autour d'une zone étrange qui est gardée par des militaires, qui est autour d'un phare, qui est entouré par ce qu'ils appellent le Glimmer, qui est des sortes d'ondes multicolores, c'est ce qu'on voit dans les trailers. Je vous en dis pas plus, ils envoient des mecs pour voir ce qui se passe et les mecs reviennent jamais, donc c'est de là que démarre l'histoire. L'histoire du
il
film...
Il a pas été la chercher très loin celle-là quand même, parce que je peux te citer au moins 4 animés japonais.
Alors justement, je peux pas vous spoiler parce que la fin est plutôt barrée et que il faut la voir pour vraiment piger un peu tout le truc, donc je vais pas vous spoiler, mais en revanche l'histoire du film est assez intéressante parce que justement, comme tu disais, ça a clivé pas mal, mais déjà au moment de la production, puisqu'en fait il y a eu des test screening, donc c'est ces projections test qu'ils font sur les premiers cuts du film, qui étaient très très mauvais aux États-Unis. Du coup les mecs qui géraient la finance à la Paramount ont un peu flippé et ils ont demandé donc aux réalisateurs et aux producteurs de faire des changements. Alors Rudin et Garland, qui sont donc producteurs et réalisateurs, ont refusé. Donc ils ont réussi à tenir tête au mec. Il y a eu derrière une démission d'un mec, enfin bon bref, il s'est passé des trucs qui ont changé un peu l'organigramme, donc finalement Paramount est revenu un peu sur sa position et a dit ok, on va finalement le sortir mais uniquement aux États-Unis et en Chine, et puis dans le reste du monde on va le distribuer via Netflix et on verra bien ce que ça donne. Donc c'est pour ça que le film est tout à coup un peu disparu des radars, parce qu'il sortira pas en salle chez nous.
Alors qu'il a une distribution impressionnante, hein.
Ouais, il a une distribution de ouf. Il y a Jennifer Jason Leigh, il y a Oscar Isaac, il y a Tessa Thompson, il y a Natalie Portman, enfin voilà, il y a que des grosses pointures qui pour le coup sont tous super super bons. Ils sont au top de leur game, comme on dit. Donc matez-le, il est sur Netflix en ce moment. Franchement, c'est un bon film d'anticipation. La fin est barrée, effectivement, faut bien s'accrocher pour essayer de tout comprendre. Au pire, allez lire des explications sur le net après derrière si vous êtes pas sûr. C'est pas non plus du David Lynch, hein, il y a vraiment moyen de comprendre. L'idée est vraiment pas conne en plus. Enfin moi je trouvais que
tu veux dire que c'est pas de la fumée noire ?
Non, voilà, il y a une vraie approche assez smart du truc et qui est assez il y a 2-3 scènes assez terrifiantes. Enfin, dans la conception, je peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler, mais il y a vraiment des moments où.
Et si vous êtes pas content, voilà. Il restera toujours le forum pour aller insulter Fastkill.
Exactement. Hein, venez en parler avec nous sur Discord, tiens.
C'est important. Non, mais sur Discord, sur le forum, il faut que ça reste, il faut qu'il y ait une trace.
Oui, c'est ça. Et on va finir la culture en vitesse en parlant donc de nouveau trailer d'Infinity War qui sort aujourd'hui. Comme on sait qu'on a beaucoup de fans du MCU sur Guizone, on voulait en parler, donc du coup, nous on va enregistrer après pour une fois, histoire de ne pas se faire spoiler.
On se demande bien pourquoi il y a des fans.
Et donc, bah voilà, le trailer sort aujourd'hui. Surveillez vos internets, comme on dit. Et puis, on en reparlera, nous, dans les clairvoyants, dès le début de la semaine prochaine. Et on va passer à la tech et au reste, au matos, avec apparemment des gens qui veulent la peau d'AMD.
Alors ça, c'est une histoire extraordinaire. Si tout va bien, vous aurez lu la news sur Geekzone que je suis censé terminer après avoir enregistré ce podcast, puisque j'ai pris mon temps pour avoir un maximum d'informations et avoir, attendre un peu que les cendres retombent sur cette histoire. Rapidement, donc, nous sommes au moment où nous enregistrons ce podcast jeudi soir. Vous avez écouté vendredi matin. Et au début de semaine, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des révélations extraordinaires avec... une société israélienne qui s'appelle CTS qui a balancé sans crier gare un document de 20 pages où il se balance 9 failles qui touchent tous les processeurs AMD ou presque. Et alors tu te dis bah bravo, vous avez fait votre travail, sauf que oui mais non. Normalement quand tu trouves des failles dans le monde de l'informatique, tu vas déjà les communiquer aux responsables. Donc quand on se rappelle de l'histoire de Intel qui a eu des mois pour essayer de mettre en place des protections pour les failles qui étaient qui touchent toujours d'ailleurs nos adorables processeurs avec Meltdown et compagnie, ça y est, tout le monde a été prévenu, Apple a été prévenu, Microsoft a été prévenu, les gars qui bossent sur Linux ont été prévenus pour que tout le monde travaille de concert pour patcher tout ça avant le reveal, parce que sinon évidemment c'est open bar pour tous les hackers du monde et c'est pas vraiment le but de la manœuvre. Là, bizarrement, ils ont eu à peine 24 heures. Les versions diffèrent AMD en fonction d'avec qui tu parles. Il y en a qui disent que c'est 24 heures, d'autres que c'est le jour même. Et dans les deux cas, de toute façon, c'est absolument pas assez, puisque normalement, t'as au moins un mois pour te retourner et analyser les trucs qu'on t'a envoyés. Et en même temps que ce rapport sort, tu te retrouves avec des gens qui travaillent dans le monde de la finance, qui sont des short-sellers, donc j'imagine que c'est les gens qui prennent des positions à court terme au niveau des actions, et qui, du coup, balancent eux-mêmes un rapport de 25 pages, cette fois, qui explique que AMD est mort, c'est Chapter 11, la banqueroute bientôt, que l'action devrait valoir à terme 0$. Ils font vraiment le deuil de la société. Tu te dis, what the fuck? Alors que le rapport vient de sortir. Donc, renseignement pris, eux ont eu un mail anonyme avec le rapport en question la veille. Ils ont travaillé toute la nuit, tu comprends, sur ce rapport pour tirer leurs conclusions. Sauf que le rapport en question, il est extrêmement succinct. Il n'y a pas de détails extrêmement techniques sur le truc qui a été publié. Donc, c'est pas complètement, on va dire, une arme de destruction massive pour les hackers. Ils savent où aller chercher, mais il n'y a pas non plus d'explication technique complète. Alors, les mecs disent qu'ils ont eu plus d'infos. Bon, voilà. Hein. Qui dit la vérité, c'est un peu compliqué. Et parallèlement à ça, on apprend aussi qu'une boîte de New York qui s'appelle Trail of Bits a été payée 16 000$, ce qui est pas fou, hein, par les gars de chez CTS, donc les Israéliens qui sont à l'origine du premier rapport.
Mais putain.
Pour confirmer le rapport en question, c'est-à-dire pour dire est-ce qu'on a dit du bullshit ou pas, ou est-ce que les failles sont réelles. Ok, alors déjà là ça devient complètement what the fuck, et là les mecs en fait te disent oui les failles sont réelles, on peut vraiment péter les processeurs AMD avec telle et telle et telle méthode. Donc la vraie question pour tous les gens qui bossent avec du matos AMD, c'est est-ce qu'il faut paniquer, se rouler en boule et pleurer? Bah oui et non. Alors déjà, on a déjà confirmé un truc, c'est que l'action n'a pas explosé, elle a même monté le jour de l'annonce, parce que tout le monde s'est douté qu'il y avait une embrouille quelque part. Les problématiques sont réelles, mais AMD commence son travail pour essayer de comprendre comment ils vont bloquer tout ça. Mais toutes ces failles ont un truc en commun, ou presque, si j'ai pas raté d'informations, c'est qu'il faut déjà être root sur la machine en question pour pouvoir les activer. Donc il faut déjà être en mode open bar sur la machine pour pouvoir activer et exploiter ces failles. Alors j'ai envie de te dire, d'un coup, c'est quand même vachement moins intéressant.
C'est clair.
Puisque ça veut dire que t'as déjà accès à la putain de machine en question. Mais là où effectivement il y a un vrai problème, c'est qu'ils ont un système, ce qu'on appelle les secure enclaves, des espèces de zones fortifiées où tu vas mettre les trucs les plus secrets que tu as besoin de protéger sur un processeur. Sur les trucs de chez Apple, par exemple, c'est là où tu vas avoir les empreintes digitales, Face ID, etc. C'est là où ces informations vont être stockées, cryptées, inaccessibles à aucune partie même du système d'exploitation. Donc il va juste, il va juste vérifier que ce truc est présent et que ça correspond, si tu veux. Mais les données elles-mêmes sont sécurisées. Bon, là, sur cette partie-là du processeur AMD, les mecs ont réussi à avoir accès et à coller des trucs à l'intérieur qui restent indétectables après. Et là, ça pue. Donc, on en est là. Moi, j'attends maintenant... tout ça, c'est encore très, très frais. Il y a plein de gens qui sont en train de travailler là-dessus, décortiquer ce rapport, regarder ce qui se passe. Et du coup, si la news qui sort chez nous s'appelle « Qui veut tuer AMD ?», c'est parce que bah, c'est un peu la question qu'on se pose. C'est pas du tout un rapport classique de faille. C'est clair, il y a une volonté de nuire qui est évidente. Les mecs de chez CTS travaillent pour de l'argent. Il y a 6 employés seulement. C'est une boîte qui existe depuis janvier 2017. Mmh. À se demander si elle n'a pas été montée uniquement
juste
pour ça.
Juste pour ça, ouais.
Voilà, donc bah, on va rentrer dans les questions classiques. À qui profite le crime ?
C'est ça.
Bon, on a bien surtout un nom. Mais ce qui serait extrêmement bizarre, parce que tout le monde pensait à Intel en se disant bah, il faut qu'ils essayent d'allumer un contre-feu contre c'est les ça, trucs ouais. qui sont arrivés chez eux. C'est pas si simple, puisqu'en plus, AMD est un partenaire d'Intel actuellement, avec qui ils ont sorti des processeurs avec des parties graphique AMD. Enfin, tu vois, c'est un panier de crabes, cette histoire. Donc voilà, on va continuer à suivre le feuilleton. Je trouve que c'est ultra, ultra bizarre. Je suis pas le seul, hein, il y a plein d'articles qui sont sortis sur le net. Mmh. Et sur la news que je vais vous linker avec le biais du podcast, je vous mettrai plein de liens en anglais sur les gens qui se posent un peu les mêmes questions que moi. Mais c'est extrêmement, comment dirais-je, olfactivement déplaisant, cette histoire. Voilà.
À quand une série Netflix, hein.
C'est ça.
On va finir sur la tech avec le Raspberry Pi 3B+.
Et oui, bah alors ça, c'est un peu le petit chocolat pour terminer ce podcast. Raspberry continue de faire évoluer son matériel avec un nouveau produit qui reste à $35. Donc ça, c'est l'excellente nouvelle. C'est exactement la même que le dernier Raspberry. Sauf que, bah, ils ont amélioré plein de trucs. Le port Ethernet est en gigabytes cette fois, sauf que pas vraiment en fait, c'est pas vraiment du gigabyte, c'est du gigabyte branché sur du USB, donc c'est du 300 mégas, et c'est pas du vrai giga, mais ça sera toujours mieux que ce qu'on avait. C'est du Bluetooth, c'est du Wi-Fi amélioré, c'est surtout 200 MHz de plus sur le processeur, donc ça c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, ça va continuer de proposer des opportunités hyper intéressantes. Il y aura même d'ailleurs la possibilité avec un accessoire vendu séparément d'avoir le courant directement transmis par l'Ethernet avec le Power over Ethernet.
Nice.
Donc ça va aussi permettre tous les bricoleurs qui font du do it yourself avec des Raspberry de faire des nouveaux trucs encore pas avec moins de câbles, pas besoin de se faire chier à avoir une prise de courant dans le coin, etc. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça va sortir là maintenant tout de suite, donc $35 pour faire mumuse, avoir vos émulateurs, vos mini serveurs, etc. C'est une très bonne nouvelle que ça continue dans cette direction à ce prix-là.
Un petit rant cette semaine ?
Écoute, j'en avais un, mais on est déjà en train de dépasser. Je me dis, est-ce qu'on leur ferait pas la surprise pour la semaine prochaine ?
Ah bah écoute, on va faire ça.
Je vais juste faire un tout petit tips parce que c'était une expérience que j'ai eue cette semaine avec nos amis de chez Apple, mais rapidement. C'est que si vous avez un problème hardware sur du matos Apple, tout le monde connaît les numéros de SAV, les Genius Bar, etc. La bonne méthode, et je vous le dis, c'est pas du tout un rant, hein, c'est juste parce que j'ai paumé une heure avant de comprendre et de dire au mec, mais vous servez à rien alors ? Et le gars de me dire, ouais. C'est-à-dire que quand tu les appelles sur le SAV et que t'as un problème hardware, genre un écran à faire changer, il faut que tu prennes un rendez-vous dans un Genius Bar, dans un Apple Store ou dans un centre agréé. Et en fait, eux ne peuvent pas le faire pour toi. Ils ont pas d'accès plus simple que toi, en fait, finalement, quand tu vas prendre ton rendez-vous sur le site directement.
D'accord.
Donc, bah, c'est intéressant quand vous avez un problème software parce qu'ils peuvent vous proposer des solutions. Ils peuvent vous aiguiller si vous savez pas comment faire. Donc, en ce sens, ils font leur mission, on va dire. Mais si vous savez déjà ce qu'il vous faut et que ce qu'il vous faut, c'est un rendez-vous dans un Genius Bar, appelez directement Genius Bar, en fait, tout bêtement. Voilà, ça vous évitera de perdre du temps. J'ai voulu être malin et ça servait à rien. Voilà.
Ça t'apprendra, tiens.
Ça m'apprendra. Et donc, voilà, tips du jour. Ils n'ont pas de lien secret avec le Genius Bar. Non, voilà, avec le Genius Bar, quand vous appelez le service, ils sont en Irlande, comme quasiment tous les SAV européens, ouais. J'ai envie de te dire, quand ils ne sont pas dans les pays du Maghreb. Donc, c'est vraiment les deux zones qui sont utilisées. Mais ils n'ont pas une ligne magique pour vous envoyer sur un rendez-vous directement sur l'Apple Store qui vous arrange.
Et c'est la fin de ce 42e épisode de Torréfaction. On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine, si personne n'est malade, dès 9h du matin.
Ça va maintenant, hein.
Ouais, et on va passer un petit week-end détente, là.
Ouais, bah écoute, moi, tu vois, je vais me préparer à aller feed sur PUBG en attendant que le patch sorte. Tu vois, j'ai des programmes extrêmement simples dans la vie.
Et moi, je vais aller finir Jessica Jones, tiens.
Et moi aussi. Donc, c'est l'épisode, en fait.
Allez, à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com
je t'explique pas comment on parle dans un micro, j'imagine que tu sais.
Pas trop près, pas trop près, comme ça.
Là, comme ça, c'est très bien.
Bon.
Chin.
La tienne.
Écoute, en tout cas, merci d'être venu.
C'est un plaisir.
Dans le canap, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone, un rendez-vous durant lequel Fasquille s'entretient avec un invité, sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie. Dans le canap alias DLC, c'est tous les mois exclusivement sur geekzone.fr.
En fait, il faudrait que tu sois ton invité un jour. Ce serait marrant que t'aies des gens proches de toi qui te connaissent bien, qui fassent la même chose. Et les gens, qui kifferaient.